Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi pour une première lecture dans le premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 17. C'est un chapitre que nous connaissons bien. C'est une histoire qui est connue. Des films, il y en a eu. Chapitre 17, verset 1er. Il dit ceci. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azekah à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait environ 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi ou un déshonneur à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles des Philistins, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de fureur. Verset 16, il nous dit ceci, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Romains, s'il vous plaît. Romains au chapitre 7. Il faudrait lire tout le chapitre 7 pour en saisir le sens, mais nous lirons à partir du verset 14. Romains chapitre 7, à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste ou ce que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Amen. « Vous avez certainement compris au travers de ces lectures où je veux nous emmener cet après-midi. Voilà. Nous avons lu donc dans le chapitre 17 l'histoire de David contre Goliath. Mais je voudrais qu'auparavant, avant de parler de David, parler d'une armée qui est tenue en échec pendant 40 jours. Pendant 40 jours, une armée est tenue en échec par un géant qui mesure environ 3 mètres. Alors que lorsque nous regardons dans les chapitres précédents, dans le chapitre 14, ça a été justement la victoire de Saül contre les Philistins. Et là, il se retrouve à nouveau confronté aux Philistins, sur qui il a déjà remporté une victoire. Et dans le chapitre 15, il nous parle d'une victoire éclatante de Saül sur l'armée des Amalécites. Et cette fois-ci, un seul homme, fait obstacle à toute une armée qui a déjà remporté 2 victoires. On pourrait se dire que, fort de ces victoires, ils auraient pu aller de l'avant. Mais que s'est-il passé pour qu'un géant, même si on sait que sa carrure est imposante, même si on regarde toute son armure, pour l'époque, jusqu'à regarder son armure, à entendre ses paroles, on suffit pour tétaniser toute une armée, pour terroriser toute une armée, pour tyranniser une armée, puisque pendant 40 jours, il va leur faire obstacle. Voilà. Alors on pourrait se poser la question, en effet, parce que je me suis posé cette question, puisque Goliath et son armée avaient la suprématie, rien qu'à voir, ils auraient pu balayer l'armée de Saül. Mais ils n'ont fait que faire obstacle. Juste les empêcher de remporter la victoire pendant 40 jours. Et ça aurait pu durer. Voilà. Et lorsque nous regardons de plus près, pourquoi cette armée qui a déjà remporté 2 victoires, ici, elle est stoppée dans son avancée. Pourquoi cet échec? Pourquoi cet arrêt? Pourquoi cette panne dans la progression? Comment, où était ce géant dans les précédents combats? Où était-il? Était-il absent? Je ne le pense pas. Mais lorsqu'on regarde, on voit que cette armée est conduite par un homme désapprouvé par Dieu à cause d'une désobéissance. Une désobéissance a été un obstacle pour la victoire d'une armée. Une rébellion contre l'ordre de Dieu, a fait que lorsqu'un homme se lève, toute une armée est terrassée. Ils ont perdu confiance, ils ont perdu foi, malgré les cris avant de se lancer au combat, il suffit que Goliath se dresse pour que toute une armée se taire. Voyez-vous, lorsque on est dans la même situation que Saül et son armée, eh bien, les choses qui jusqu'ici étaient insignifiantes deviennent d'un seul coup des géants. Et je voudrais nous interpeller parce que je crois, frères et sœurs, que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, en tout cas, lorsque le prédicateur cherche la pensée de Dieu, je crois que Dieu est celui qui révèle sa pensée parce qu'il connaît ceux qui seront présents. Et je crois que Dieu parle au présent que nous sommes. En fonction des jours passés, mais aussi en fonction des jours à venir. Combien, lorsque l'on est dans une situation de péché contre Dieu, eh bien, il y a des géants qui se lèvent sur notre route. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ, alors qu'il était déjà un enfant de Dieu, un chrétien, engagé, se rend compte que malgré son obéissance, il y a là dans son corps, dans sa vie, une autre loi qui résiste contre la volonté de Dieu et contre son désir d'obéir à Dieu. Il veut faire le bien et il fait le mal qu'il ne veut pas. Et je crois que nous sommes de la même nature que Paul. Et ce ne sont pas les nombres d'années qui changent quoi que ce soit. Combien le péché, lorsqu'il fait son entrée, il tétanise, il tyrannise, il terrorise une vie et il le tient assujetti. Et la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Alors on pourrait se poser la question: qu'est-ce qui triomphe de toi, mon frère, ma sœur? Quel est le géant qui se dresse toujours sur ta route et qui t'empêche d'avancer dans la vie avec Dieu? Est-ce que le problème du péché est-il réellement, définitivement réglé dans ta propre vie? Ça, c'est une bonne question. Comment se fait-il que je veux faire des progrès dans ma vie et que je n'y arrive pas? Comment se fait-il que je veux faire le bien et je fais toujours ce qui n'est pas bien? Paul dira que je vois par là qu'il y a une autre loi dans mon corps, c'est la loi du péché. Et toute cette armée qui a été victorieuse est stoppée dans son avancée. Nous pouvons être comme Saül, choisis par Dieu. Mais il suffit qu'il y ait une désobéissance qui s'infiltre. Un cas de péché qui s'infiltre dans la vie du croyant pour que sa croissance stoppe. Et on peut engager tous les combats, tous les projets qu'on veut, mais on est toujours stoppé. On fait des efforts, mais on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, la solution, c'est qu'il faut régler le problème du péché. Le problème de la désobéissance. le problème de la résistance à Dieu. La Bible nous parle également d'un ennemi, Satan et toute son armée. Il dit que dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances, etc. Et la Bible nous dit également que le monde entier est sous la puissance, sous la domination, sous l'autorité de Satan et de toute son armée. Voilà. Alors on pourrait dire tout ce qu'on veut, mais la réalité spirituelle dans le monde dans lequel on se trouve, c'est que Satan y domine. Et l'arme que le Satan utilise, c'est le péché. C'est lorsqu'il nous conduit dans la désobéissance, lorsqu'il nous conduit dans le péché, que Dieu n'est plus avec nous. Et je voudrais nous interpeller sur cette nécessité que cette situation soit réglée. Sinon, on n'y arrivera pas. Cette armée, pendant 40 jours, elle a été tenue en échec. Et je me pose la question, comment se fait-il que pendant 40 jours, ils ne se sont pas dit, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Au temps d'Élie, le prophète, mais le sacrificateur, ils sont allés également au combat contre les mêmes ennemis. Et puis ils ont été battus. Et ils ont dit, parce que l'arche de l'Éternel n'est pas avec nous. Il suffirait qu'on amène l'arche avec nous et on va gagner. Et ils sont allés chercher l'arche. C'est les fils d'Élie qui portent l'arche. Hein? Voilà. Mais la Bible nous dit que ce sont des hommes pervers, alors qu'ils sont au service de Dieu, qui ont porté l'arche. Et ils sont allés au combat, ils ont crié, mais ils ont été vaincus malgré la présence de l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la désobéissance et dans la résistance à Dieu. Et je voudrais nous placer chacun devant notre vérité, devant notre réalité, parce que je crois malheureusement que dans la vie du croyant, il peut arriver qu'il a laissé une porte ouverte et l'ennemi s'y est infiltré. Et il peut avoir lutté, combattu, crié, cherché Dieu, mais il faut régler cette situation. Et ici, cette armée, eh bien, elle est stoppée dans son avancée. Alors, on a toutes sortes de choses qui peuvent se dresser devant nous et qui font qu'ils sont comme des géants qu'on ne peut pas vaincre. Tout à l'heure, le pasteur parlait, par exemple, du caractère. Il y en a qui en disent, mais je ne peux pas, c'est mon caractère, c'est ma nature. On peut parler de la jalousie, c'est pas possible, la jalousie. On peut parler du manque de pardon, par exemple. Non, c'est trop. Je ne peux pas pardonner parce que ça, c'est impardonnable. Mais à un moment donné, regarder à notre propre état face à la décision de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Qui lui, comme cela a été chanté tout à l'heure, malgré l'offense qui lui est faite, il a choisi de pardonner. Et il ouvre un temps de grâce dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je parle de cela, parce que nous sommes dans ce temps de grâce où nous pouvons remédier à la situation.
Je
On peut parler de la colère, on peut parler du mensonge, on peut parler de la tromperie, on peut parler du vol, on peut parler de l'amour de l'argent, on peut parler de l'égoïsme. Tout cela, ce sont des géants qui se lèvent dans notre vie à cause du péché. Mais béni soit Dieu de ce que dans cette histoire, elle commence mal, mais elle se termine bien. Alléluia. Je voudrais nous emmener sur le chemin de la victoire. Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. Quels que soient les géants qui se dressent sur notre route, je voudrais dire que la volonté de Dieu, c'est de nous accorder la victoire. C'est de nous conduire sur le chemin de la victoire. Il y a certainement beaucoup de géants, mais quel que soit le nombre, Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut nous donner la victoire. Il est parlé ici de David, lui qui n'a pas été choisi pour aller au combat. Et qu'on n'aurait certainement pas choisi pour aller au combat. C'est pour ça qu'il n'a pas été choisi. Mais il s'est trouvé que, ici, il a dit, son père va l'envoyer voir ses frères au combat. Pour voir dans quel état ils sont et pour lui rapporter des nouvelles. Et cela nous parle également de Jésus-Christ. Descendant au niveau de la voie humaine, issu de David, qui lui a été envoyé par Dieu le Père, parce que Dieu a tant aimé le monde. Voilà, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, Dieu a envoyé Jésus-Christ, parce qu'il te voit, parce qu'il me voit, parce qu'il nous voit face à nos géants, et en particulier aux géants du péché, et aux géants Satan et toute son armée, que nous sommes dans l'impossibilité de vaincre, et c'est ainsi que nous sommes tenus dans l'esclavage, dans des addictions, dans des problématiques insupportables et insurmontables, desquelles nous ne pouvons nous en sortir. Et Dieu lui-même vient à notre secours. Alléluia. La Bible nous dit que David, il a obéi. Je me suis posé la question, mais où sont les autres frères de David? Puisqu'ils sont 8 en tout. Il y en a 3 au combat, 4 avec lui, et il y a 4 autres frères. Mais c'est lui, le dernier. Et la Bible nous dit que on n'avait pas de regard en ce qui concerne le Christ parce qu'il ne présentait pas les critères certainement humains qu'on pourrait penser pour être un chef, pour être celui qui va être le Messie. Et cependant, Jésus est venu. Et il s'est humilié et il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Cela a été rappelé au niveau des chants. Pourquoi? Parce qu'il te voit, parce qu'il me voit, parce qu'il nous voit dans nos combats dans lesquels nous sommes toujours vaincus depuis des jours, des mois, voire peut-être des années, et qu'il voudrait que nous ayons la victoire. La Bible nous dit que David, avec une fronde et une pierre, il a vaincu l'ennemi. Les armes qu'on n'aurait pas choisies. Vous voyez? Et la Bible nous dit également, en ce qui concerne Jésus, qu'il a triomphé du péché. Alléluia. Par son sacrifice, son sang versé à la croix. Le temps me manque pour nous permettre de voir tous les versets qui concernent cela. Mais la Bible nous dit que son sang a été versé parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait du sang versé. Il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse. Et le jugement qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer dans cette victoire. La Bible nous dit en ce qui concerne l'armée de Saül que pendant 40 jours, ils ont été tenus en échec. Pendant combien de temps sommes-nous en échec? Je voudrais dire que maintenant, nous pouvons vivre la victoire. Pendant 40 jours, ils ont été tenus en échec, mais une fois que David a battu Goliath, cette armée qui était en échec a retrouvé courage et force parce que l'ennemi a déjà été vaincu. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, tu peux être vainqueur parce que Christ a déjà vaincu. Aujourd'hui, tu peux triompher du géant qui t'emprisonne parce que Christ l'a déjà vaincu. Peut-être qu'on va regarder cela dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 13, il dit ceci. Colossiens 2, verset 13, il dit: vous qui étiez morts en raison de vos fautes ou de vos péchés et de l'incirconcision de votre corps ou de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Voilà la réalité de la croix. Ce n'est pas un échec, mais c'est une victoire spirituelle qui nous donne maintenant, lorsque nous saisissons par la foi l'œuvre de Christ, lorsque nous croyons que Christ a déjà payé le prix pour nous, eh bien, lorsque nous reconnaissons que Christ a pris notre place, et lorsque nous nous humilions et nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos iniquités, nous sommes libérés du pouvoir du péché d'une part, et nous entrons dans la vie de victoire, non seulement sur le péché, mais celui qui utilise le péché, c'est-à-dire le diable et toute son armée. Nous devenons ainsi de ceux qui ont autorité et pouvoir sur le diable. Nous pouvons ordonner à l'ennemi de se retirer. Alléluia. Oui, le Seigneur nous donne la victoire en Jésus, victoire sur le péché, victoire sur Satan et son armée, victoire sur le monde et ses convoitises, victoire sur la maladie, puisque la Bible nous dit que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison de toutes nos maladies. Alléluia. La fronde a frappé la tête de Goliath. Voyez, il n'a pas visé dans les jambes, hein. Mais il a visé à la tête, accomplissant et nous parlant d'une prophétie qui est parlée dans la Genèse, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je vous invite vraiment à vivre cette victoire. Ne soyez plus de ceux qui continuent à être blessés par le serpent, par l'ennemi de notre vie. Mais soyons de ceux qui marchent sur le chemin de la victoire, non pas par notre force ou notre pouvoir, mais par Jésus-Christ. La Bible dit, tous ont péché sans exception et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Et le fait d'être privé de la présence de Dieu, eh bien, nous sommes dans l'échec. Mais lorsque on croit au sacrifice de Christ, nous sommes gratuitement justifiés par le sacrifice de Christ. Et à nouveau, nous entrons dans une vie de victoire, parce qu'à nouveau, nous entrons dans une vie d'obéissance à Dieu. Je voudrais terminer en disant ceci, en vous invitant, pardon, à lire avec moi dans 1 Jean chapitre 5. Voilà, deux versets, puis on va terminer. 1 Jean chapitre 5. Voilà, 1 Jean chapitre 5. Verset 4, est-ce que quelqu'un peut lire le verset 4? 1 Jean chapitre 5, verset 4. Un Jean, chapitre 5, verset 4.
Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi.
Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Voilà. Et la foi véritable, c'est le Seigneur qui en est l'auteur de la foi véritable. Et qui va conduire cette foi à grandir. Lorsque nous croyons à la parole, nous recevons cette parole, alors la foi naît dans notre cœur. Et cette foi nous mène vers une vie, dans une vie de victoire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et je voudrais qu'on termine avec 2 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2. Alors, 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Quelqu'un peut le lire, verset 14? Amen. Voilà. Grâce soit rendue. Dieu soit loué de ce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Voyez? Alléluia. Oui, en Christ, nous avons la victoire. Lorsque nous sommes toujours en Christ, où que nous allions, eh bien, Dieu nous conduit dans une vie, dans un chemin de victoire.